soir. C'est la merde, tout est normal. Extrait de Noir Total.
Secteur Alpha Tango 12, Détroit, Michigan, UCAS. 30 juillet 2080, 3h41, heure locale. Contact à gauche, contact à gauche. Non, contact à droite, droite. Oh mon Dieu, ils sont partout. Le caporal Dan Travis, de la 15e compagnie de sécurité mécanisée d'Ares Macrotechnologie, ignora les bruits et la fumée du combat qui l'entouraient afin d'ajuster son tir avec sa mitrailleuse lourde M22. Les données d'acquisition du Smart Gun emplirent son champ de vision. Il pressa la gâchette et la mitrailleuse ultra-lourde tressauta entre ses mains alors qu'il transperçait un esprit guêpe avec ses munitions calibre 50 hautement explosives. L'insecte abattu alla s'écraser sur le véhicule personnel blindé, VPB, de Travis, projetant des éclaboussures de sang contre la tourelle ouverte et le visage de Travis. Travis ôta les tripes de l'insecte de ses binoculaires en poussant des jurons. Mais les restes de l'insecte étaient le cadet de ses soucis. Ses yeux cybernétiques identifièrent une foule de cafards, de fourmis et d'autres types d'insectes avançant vers sa position, le long des rues et sur les flancs des bâtiments, en une vague grotesque et vrombissante. Une partie des insectes s'était déjà attaquée aux troupes d'Ares, massacrant tous ceux qu'elle rencontrait sur son passage. Travis et les autres tireurs du VPB répliquèrent avec un tir de couverture meurtrier, réduisant quantité d'insectes en morceaux sanguinolents afin de protéger les escadrons d'infanterie qui se trouvaient devant la ligne de VPB. Mais pour chaque insecte tombé, 6 autres le remplaçaient. Nul besoin d'être un génie tactique pour réaliser que la 15e risquait de se faire déborder en moins d'une minute. « Chef !» Travis beugla dans son micro au moment où sa M22 tomba à court de munitions. « Je les vois. Le lieutenant dit de tenir !» répliqua calmement la sergente-chef Tessa McAvoy depuis l'intérieur du VPB, alors qu'elle prenait les commandes des mitrailleuses avant du véhicule pour laisser une chance à Travis de recharger. « Tenir ! Tu te fous de ma gueule ? Je savais bien que ce lèche-cul allait nous foutre dans la merde !» Travis grommela en remplaçant rapidement la ceinture à munitions de sa M22, dont le canon était devenu écarlate. « Vous n'aurez à faire face qu'à un contact ennemi faible et dispersé, » qu'il disait. « Vous serez en réserve de la force principale, » qu'il disait. « Mon cul !» se dit intérieurement Travis, alors qu'il tirait sur le levier d'armement de la M22 avant de faire à nouveau feu. 8 heures plus tôt. L'opération a pour nom de code Latvian Gambit. Notre objectif final n'est ni plus ni moins l'élimination totale de la menace insectoïde. Le caporal Travis se pencha un peu plus en avant dans son siège, les yeux rivés sur le capitaine Evan Dartmouth, chef des opérations, CO, de la 15e MSC. Jusque-là, Travis avait cru qu'il assistait au stupide briefing de préparation habituel et n'avait pensé qu'à son prochain repas. Mais là, il avait perdu l'appétit. Pendant qu'il parlait, Dartmouth pointait une vieille cravache de cavalerie sur différents auras en fournissant certaines données pertinentes. « On nous a demandé de protéger et de sécuriser la force d'assaut principale sur son flanc gauche, juste ici », dit-il en appuyant sur une carte de Détroit en RA, qui s'ouvrit sur un nouvel aura dont il marqua la zone sélectionnée. « Notre mission est simple, sécuriser la zone et tenir bon. » Travis fronça les sourcils. On leur demandait de sécuriser un labyrinthe d'immeubles de bureaux situés juste à côté d'un parc industriel, en n'utilisant que de l'infanterie et des VPB Army Master. Sur ce genre de terrain ultra étroit, les Army Masters seraient fortement gênés dans leurs manœuvres face aux ennemis. Jetant un œil sur sa droite, Travis aperçut la sergente-chef McAvoy, l'air renfrogné, qui tapotait ses défenses de ses doigts. Travis aurait parié un mois de solde que la sergente-chef pensait la même chose que lui. De l'autre côté de la pièce, il aperçut son décérébré de chef de section, le lieutenant Keith Engel, qui se contentait de hocher la tête en signe d'assentiment. Ce susboule était suspendu aux lèvres de Dartmouth comme s'il s'agissait du prochain Sun Tzu. Travis soupira au travers de ses lèvres pincées. Dartmouth continua à déblatérer, évoquant le croisement des champs de tir, les interdictions de zone, la supériorité numérique, la coordination et la communication interunité, avant de demander s'il y avait des questions, ce qui, pour Dartmouth, n'était en fait qu'une formalité avant de mettre fin à la réunion. Dartmouth était avant tout un agent corpo, le genre de CO qui n'appréciait pas que ses ordres soient remis en cause. Il vous briefait sur ce que vous aviez besoin de savoir, ce qu'il attendait de vous, point. Travis recula dans son fauteuil en se demandant pourquoi il avait quitté les forces armées des CAS et s'était engagé dans une corpo. Sans doute à cause de la paye triplée et de la participation aux bénéfices, une connerie dans le genre. Mais une nanoseconde avant que Dartmouth congédie tout le monde, McAvoy stupéfia l'assemblée en prenant la parole. « Monsieur, à quel genre de résistance devons-nous nous attendre de la part de l'ennemi ? » demanda-t-elle calmement. Dartmouth s'immobilisa. Une légère expression de surprise passa sur son visage, puis il se tourna vers McAvoy, les deux mains dans le dos, tenant sa cravache. Engel avait les yeux écarquillés, et son visage terreux était devenu encore plus pâle. En d'autres circonstances, Travis se serait à nouveau posé la question de savoir par quel miracle Engel avait obtenu son poste de commandement. Mais en cet instant, Travis et le reste de sa compagnie observaient le commandant des opérations et la sergente-chef se fixer, le regard planté dans celui de l'autre, jusqu'à ce que Dartmouth finisse par rompre le silence. « Les planificateurs opérationnels indiquent que les chances de succès de la force principale sont de 89%, donc vous n'aurez qu'un contact léger avec l'ennemi, quelques traînards dispersés tout au plus. » Travis déglutit. Le fait que Dartmouth ait dit « vous » et non « nous » ne lui avait pas échappé, tout comme le fait que ce dernier tordait doucement sa cravache entre ses mains. Mais McAvoy n'en avait pas terminé. « Et les 11% restants, monsieur ?» Les yeux de Dartmouth se rétrécirent. « Vous n'avez qu'à faire votre boulot, sergente. » « Compris, monsieur. Serez-vous dans le véhicule de tête ?» Travis aurait juré entendre quelque chose craquer derrière Dartmouth. Le capitaine serra la mâchoire. « Non. J'ai reçu l'ordre d'assurer la coordination avec le commandement opérationnel dans le QG de terrain. Le lieutenant Engel assurera le commandement. Une autre question, sergente ?» McAvoy soutint le regard de Dartmouth. « Non, monsieur. » Dartmouth hocha la tête. « Bien, parce que ces ordres viennent d'en haut. Et nous savons tous ce que cela signifie. » On décolle dans 6 heures. Vos chefs d'escadron auront le briefing final avant. Compagnie, vous pouvez disposer. Je te le dis, Dano. J'ai comme un mauvais pressentiment. Ma carcasse me dit qu'on n'en reviendra pas. Travis baissa les yeux alors qu'il graissait une énième fois sa M22. Cela faisait 2 heures que le briefing était terminé. Et il était toujours aussi anxieux. Paco, tu dis ça avant chaque mission depuis 4 ans. Le caporal Ernesto Paco Hernandez, rigueur nain et chauffeur de VPB, dégagea sa tête du compartiment moteur de leur A-Master et pointa un cliquet vers Travis. « T'arrêtes pas de me charrier avec mon dos, mais rappelle-toi que ma carcasse nous a évité de percuter cet engin explosif improvisé près du Kilimanjaro. » Travis leva les yeux vers le ciel. « Pour mémoire, j'avais repéré les deux insurgés sur la route bien avant qu'on se rapproche. »« Ouais. Mais t'avais pas vu où il l'avait planqué. Si mon genou ne m'avait pas fait mal... » Il y avait de la terre fraîchement retournée sur le côté de la route. N'importe quel bleusaille aurait pu le voir. Mais je me suis arrêté juste devant l'endroit où le lobby de mortier avait atterri. Donc le mec qui a mal visé, c'est grâce à toi ? Oui. Enfin non. Parce que si j'avais avancé, ne serait-ce que de 2 mètres de plus... Tu dis des conneries, Paco. Tu sais qui d'autre dit des conneries, Travis ? Interrompit une voix grave et cinglante, qui brisa net la conversation entre Travis et Paco, telles des balles APDS traversant au travers d'un blindage bon marché. Les deux caporaux fermèrent bruyamment la bouche, avant de baisser les yeux vers McAvoy, qui semblait prêt à déchiqueter un blindage avec les dents. « Si vous en avez fini avec votre concours de claque-merde, j'aimerais m'assurer que mon A-Master est prêt au combat. Et ce, avant qu'on se retrouve en combat. » Ils restèrent immobiles quelques instants dans un silence pesant. Travis et Paco savaient que McAvoy n'en avait pas vraiment après eux. Cela faisait 6 ans qu'ils faisaient équipe, et ils avaient survécu à 5 déploiements. 2 pendant les guerres du désert, 1 au Kenya... et 2 autres dont il ne parlait jamais. Le genre de situation qui vous oblige à faire connaissance et à vous faire confiance en un temps record. Travis finit par rompre le silence. Alors, c'est quoi le topo, chef ? McAvoy retira sa casquette et fit courir ses doigts métalliques sur son crâne chauve. Comme d'habitude. Engel a la tronche tellement enfoncée profondément dans le cul de Dartmouth qu'il fonce tête baissée sans même poser une putain de question. Il ne s'est même pas fait chier à demander un soutien magique ou aérien. Il n'écoutera pas un mot de ce que je dirai. Dartmouth et Engel. Ces deux putasses vont nous faire tuer. On déconne pas avec les insectes, mec, poursuivit Paco en tapotant distraitement son cliquet sur le bloc moteur. Travis acquiesça. Vous en savez peut-être un peu plus sur cette force principale qu'on soutient, chef ? McAvoy secoua la tête. Non. Même mes sources classiques n'ont aucune information. Selon les rumeurs, il s'agit d'une sorte de nouvelle unité d'élite super augmentée et très perfectionnée de Firewatch, capable, en théorie, de tenir un combat au corps à corps avec les pires insectes, sans céder le moindre pouce de terrain. Paco cracha sur le côté du A-Master. J'espère, parce que depuis qu'on a perdu la vraie fire... McAvoy et Travis fusillèrent Paco du regard avant qu'il ait eu le temps de finir sa phrase. Personne ne parlait des Firewatch Renegades, même du bout des lèvres, et surtout pas dans un endroit où l'on pouvait être entendu. Du point de vue de la corpo, les membres fondateurs du Firewatch étaient des traîtres qui n'existaient plus et dont toute trace avait été effacée. Rien de bon n'arrivait à celui qui en parlait. Pourtant, nombreux étaient ceux qui refusaient de gober la ligne corporatiste officielle. Les Firewatch étaient des héros, de ceux qui parvenaient à tenir les insectes et autres supermenaces à distance. Du moins, ils l'avaient été. Quoi qu'il en soit, retour à nos moutons. Combien de temps avant que le véhicule soit prêt ?
Plus que quelques boulons à serrer, chef, et les caisses de munitions à remplir. Après ça, on sera bon.
Paco répondit d'une voix sombre. McAvoy acquiesça. Alors action, et fais en sorte que notre équipement soit prêt. Surtout mon package spécial. Je dois aller parler aux autres membres de l'équipe. J'ai entendu dire qu'on pouvait se mettre en route plus tôt que prévu. Les deux caporaux acquiescèrent.
Hé, chef !
On fera quoi quand Engel finira inévitablement par merder une fois là-bas ? Demanda Travis.
La même chose que d'habitude, répondit McAvoy du tac au tac. On en désingue autant qu'on peut, on sauve autant des nôtres que possible et on espère ressortir de l'autre côté toujours vivant.
Sur ces mots, elle se détourna et s'avança vers les autres véhicules. Travis et Paco se regardèrent un moment, puis Travis leva le poing pour checker avec Paco.
C'est la merde.
Tout est normal.
Ici Echo 6 Romero, nous sommes sur le point d'être submergés. Je répète, nous sommes sur le point d'être submergés.
Travis !
McAvoy cria, sa mitrailleuse désormais à sec.
Je m'en occupe !
Répondit-il avant de diriger son arme à 2 heures. À approximativement 75 mètres de là, la compagnie Echo était sur le point de se faire renverser par une ligne d'esprit cafard. Sur un ordre mental, les yeux cybernétiques de Travis zoomèrent sur la position d'Echo.
Oh putain non ! Vous allez pas vous faire submerger !
Grogna-t-il alors qu'il effectuait un tir de balayage au milieu des cafards qui progressaient, projetant des fragments ensanglantés à mesure que les munitions de sa mitrailleuse lourde s'enfonçaient dans la chair des insectoïdes. Cela permit de ralentir leur charge juste assez longtemps pour permettre aux membres de l'escadron de finir le travail à coups de grenades et de roquettes. Un des soldats jeta un regard en arrière vers Travis et leva le pouce, juste avant que le sol sous ses pieds ne se dérobe et que des pattes d'insectes ne les tirent dessous. Les yeux de Travis s'écarquillèrent alors que la rue où Echo se trouvait quelques instants plus tôt disparaissait et que la brèche progressait vers la ligne de la 15e.
« Sergente, on a un contact souterrain. Ils sont en train de creuser un tunnel juste sous nos pieds. »
Travis rugit dans son micro tout en tirant une courte rafale pour abattre un autre esprit guêpe sur le point de fondre sur lui depuis un bâtiment proche.
« Il faut qu'on bouge !»
Silence radio du côté d'Engel, encore. Travis apercevait le hamaster du lieutenant, immobile, à une 50aine de mètres, un peu plus loin sur la route. Malgré le bruit de l'asphalte qui craquelait, des tirs et des différentes communications, Travis entendit McAvoy ordonner depuis l'intérieur du Hamaster.
« Putain, à toutes les unités, ici Grinder 2 Alpha, je prends le commandement. Je répète, je prends le commandement. À toutes les unités, mise en place du plan Beta, tout le monde se replie en seconde position de défense. Echo 6, rembarquez toute votre équipe, on se barre.
Quoi ?
Grinder 2, ici Grinder 6, qu'est-ce que vous fichez ? Que toutes les unités tiennent leur position, je répète, tenez... »
Sans prévenir. Le sol s'ouvrit sous le Hamaster d'Engel et l'engloutit. Mais le cauchemar ne s'arrêta pas là. Travis était aux premières loges du massacre à venir. Alors que le sol se désagrégeait, les troupes d'Arès étaient englouties sous les rues qui s'effondraient, ou submergées par les insectes rampants qui réduisaient en pièces les troupes infortunées. En quelques instants, la moitié de l'infanterie avait été réduite en un tas de chair inerte ou emportée vers l'enfer insectoïde qui s'ouvrait sous leurs pieds. De longues minutes plus tard, les Hamasters de la 15e battaient en retraite, emportant ce qui restait de la compagnie Echo. Travis et les autres mitrailleurs défouraillèrent jusqu'à ce que leurs canons blanchissent sous la chaleur, se tordent ou tombent à court de munitions. Lorsqu'il n'eut plus de possibilité de faire feu, Travis referma hermétiquement la tourelle pour rester protégé dans le Hamaster. Tandis que Paco, dans son cocon de rigueur, allumait les moteurs du VPB, Travis s'attacha sur le siège resté vide à côté de McAvoy. Tous deux observaient l'écran tactique principal alors que les autres véhicules de la 15e tombaient les uns à la suite des autres. L'un disparut dans un trou d'insectes, deux autres furent ensevelis sous la nuée. Le Hamaster percuta quelque chose et Travis jeta un œil par la fenêtre. De chaque côté de la rue, les façades des bâtiments s'écroulaient, bloquant leur retraite.
« Ils nous encerclent !» marmonna Travis.
Il jeta un œil au compartiment arrière. Les troupes de la compagnie Echo étaient complètement abattues et la plupart des hommes tremblaient de peur. Alors que Paco tournait à un coin de rue en envoyant valser un camion de livraison, dans le VPB, le son du métal frottant contre le métal devint assourdissant et l'odeur d'un moteur en train de brûler emplit la cabine. Travis et McAvoy échangèrent un regard, puis la sergente se pencha sous son siège pour y récupérer une sacoche explosive. Ils savaient tous deux que cela ne les sauverait pas.
mais ils éviteraient ainsi de se faire prendre et emporteraient avec eux autant d'insectes que possible. Mais avant que McAvoy puisse armer la charge, le sol s'ouvrit sous leurs pieds. Travis sentit sa tête heurter la cloison du VPB à au moins 3 reprises et ses yeux cybernétiques furent déconnectés. L'intérieur de la cabine se remplit de cris de panique et de bourdonnements. Travis tenta de parler, mais les mots restaient bloqués dans sa gorge. Sa bouche devint humide. Des tirs retentirent, assourdissants. Pendant ce qui lui sembla une éternité, il resta suspendu à son harnais. Le monde devint un mélange chaotique d'images floues alors que ses yeux redémarraient. Ses oreilles bourdonnaient de sang et de peur. C'est alors que, malgré ce bourdonnement, Travis crut percevoir un autre son, un changement, comme si le bruit des déflagrations était différent. Il se redressa et défit ses attaches, tombant sur le sol du VPB, ou plutôt son flanc, en l'occurrence. Le compartiment de l'infanterie était vide et les portes grandes ouvertes. Merde. Travis jeta un œil alentour et aperçut McAvoy, son casque recouvrant son visage. Il tenta désespérément de ramper jusqu'à elle, mais son corps refusait de coopérer. Tendant la main gauche, Travis approcha jusqu'à environ 10 cm de McAvoy, puis il sentit quelque chose le saisir au niveau de la jambe et le tirer hors du VPB. Paniqué, il tenta de dégainer son arme de poing, mais sa main fut arrêtée par un homme en armure lourde. Surpris, Travis cligna des yeux. Il était face à la visière d'un Firewatch. Mais il y avait quelque chose de différent dans cette armure, comme s'il s'agissait d'un ancien modèle. « Tout va bien, soldat, on vous tient !» dit le sauveteur de Travis, alors qu'on le tirait hors du VPB jusqu'à une sorte de sous-sol. Travis aperçut plusieurs autres hommes, magiciens et drones de combat lourds des Firewatch s'attaquer à la horde d'insectoïdes à coups d'armes lourdes et de magie de combat, projetant les tripes des insectes un peu partout. McAvoy lui revint alors à l'esprit et il tenta de parler, mais ce fut précisément à cet instant que l'obscurité l'enveloppa. Travis se réveilla soudainement et tenta quelques inspirations, puis réalisa qu'il se trouvait sur un lit de camp et que sa tête et son cou étaient entourés de bandages. Lentement, il ouvrit les yeux et tourna la tête. Tout autour de lui, plusieurs rangées de lits étaient occupées par d'autres soldats d'Arès, plus ou moins gravement blessés. Une magicienne humaine était en train de lancer un sort de soin sur un soldat auquel il manquait un bras. Quelques minutes plus tard, elle s'interrompit, prit quelques profondes inspirations et regarda Travis.
« Ah, vous êtes réveillé. Cela ne vous a pris que 4 jours. Ça n'a rien de surprenant vu vos blessures. »
Travis cligna des yeux, surpris.
« 4 jours ?»
répondit-il d'une voix rauque. Sa gorge le brûlait atrocement. Un peu d'eau serait bienvenue avant qu'il tente de parler à nouveau. La magicienne lui tendit une bouteille en plastique.
« Je suis la docteure Abigail Brown, ancienne médecin en chef de...
Ça n'a aucune importance. Je suis une doc des rues dorénavant, au service d'une clientèle différente. »
McAvoy... Hernandez ?»
demanda Travis d'une voix rauque entre 2 gorgées. Brown prit cet air neutre et sombre qu'ont les médecins lorsqu'ils annoncent une mauvaise nouvelle. « Je suis désolé. On m'a dit qu'à part vous et quelques autres soldats de votre VPB, il n'y avait pas de survivants. » Travis laissa sa tête retomber. Il sentit les larmes monter et sa voix se brisa lorsqu'il demanda.
« Que s'est-il passé ?»«
Je vais vous le dire !»
lui répondit une voix inconnue. Travis se tourna vers cette voix forte et n'en crut pas ses yeux. Dans l'embrasure de la porte, vêtu d'un treillis de combat et équipé d'implants magiques, se tenait la colonelle Anne Ravenheart, la chef des traîtres, la faction renégate des Firewatch.
« Damien Knight !»«
Voilà ce qu'il s'est passé !» poursuivit-elle à l'attention de Travis en franchissant l'entrée des urgences de fortune.
Il a pensé qu'il pourrait une fois pour toutes mettre fin à la menace insectoïde et devenir un putain de héros.
Son arrogance a coûté trop de vies précieuses.
Maintenant, on risque une invasion d'insectes dans des proportions apocalyptiques. Et on a besoin de monde pour la repousser. On a déjà des alliés, mais il nous en faut plus, en particulier des gens comme vous, capables de se battre, de m'aider à rallier ce qu'il reste d'Arès et de tenir la position. Qu'en dites-vous, caporal ?
Travis s'assit.
Non.
Ravenheart haussa un sourcil.
Non ?
On... « ne tient pas la position. On les tue, tous. Rien de moins. »
Ravenheart sourit et tendit la main à Travis, qui la serra avec empressement.